ce qu'on appelle la théologie des religions. Tout d'abord, c'est une réflexion théologique. Alors, une réflexion théologique, ça signifie que ce sont des chrétiens qui appartiennent à une église chrétienne, qui reconnaissent donc le Dieu Trinité, qui réfléchissent pour au service du monde chrétien. Ça ne, c'est donc une réflexion qui est extrêmement importante, et, mais dont il ne faut pas trop se faire d'illusions, elle est interne au christianisme. Au moins au niveau de l'Église catholique romaine, donc les grandes questions de théologie des religions, j'y reviens, c'est la première qui apparaît dès le début de l'époque constantinienne. Les non-croyants, les non-chrétiens, sont-ils sauvés? La deuxième grande question, qui va être beaucoup plus récente, ce sera, mais comment ça se fait qu'avec, au bout de 20 siècles d'efforts missionnaires, le christianisme, on avait vraiment fait tout ce qu'on a pu, et c'est irréductible, il y a toujours des non-chrétiens. Donc, qu'est-ce que ces religions non-chrétiennes, est-ce qu'elles appartiennent au plan de Dieu? Et de quelle façon? Alors, c'est un peu compliqué, et on a l'habitude, même si ce n'est pas aussi net, de classifier les théologies qui réfléchissent à ces questions sous différentes rubriques. Alors là, j'ai mis quelque chose un peu à l'emporte-pièce, bien sûr c'est plus subtil, mais on va vous parler d'exclusivisme. Alors l'exclusivisme, c'est on comprend le hors de l'Église, point de salut, à la lettre, et le seul chemin est celui que Dieu a parcouru à la rencontre de l'homme en Jésus-Christ. Tout autre chemin est un chemin de l'homme vers Dieu, donc idolâtrie, ça ne mène pas au salut. Vous avez sur la feuille que je vous ai distribuée un exemple caricatural, mais on va avoir un mot d'excuse. C'est le concile de Florence en 1442. Aucun de ceux qui se trouvent en dehors de l'Église catholique, non seulement païens, mais encore juifs, hérétiques et schismatiques, ne peuvent devenir participants à la vie éternelle. Ils iront dans le feu éternel qui est préparé par le diable et ses anges. Voilà. Et personne ne peut être sauvé, si grande que soient ses aumônes, même s'il verse son sang pour le nom du Christ, s'il n'est pas demeuré dans le sein et dans l'unité de l'Église catholique. Blanc. Concile qui prétendait faire la paix avec les orthodoxes. Bon. Alors, une fois de plus, on a un mot d'excuse, on est en 1442. Voilà. En 1864, le pape Pie IX, ceux qui souffrent d'une ignorance invincible concernant notre très sainte religion, en observant avec soin la loi naturelle et ses préceptes, gravés par Dieu dans le cœur de tous, et qui sont disposés à obéir à Dieu et mènent ainsi une vie honnête et droite, peuvent, avec l'aide de la lumière et de la grâce divine, acquérir la vie éternelle, car Dieu ne permet pas que quelqu'un soit puni des supplices éternels sans être coupable de quelque faute volontaire. On a nuancé. Donc, si aucun missionnaire est arrivé chez les papous n'iront pas en enfer. Donc,
alors, quid de tous ceux qui sont nés avant Jésus-Christ là?
Alors, ceux qui sont nés avant Jésus-Christ, ce sont assez, dès les pères de l'Église, ce sont les saints de l'Ancien Testament. Donc, il n'y a pas eu... Enfin, les gens se sont beaucoup interrogés, les pères de l'Église, mais on a tout de suite décidé que Moïse, Abraham et David étaient tous des saints, bien qu'ils n'aient pas eu le baptême, puisqu'ils étaient en préparation. Alors, là, c'est donc des exemples de théologie exclusiviste. L'une avec quand même un mot d'excuse, la plus récente, l'une vraiment dramatique, sans baptême, point de salut, le feu éternel, même si ce n'est pas de notre faute. Mais, ouais. Après, on va avoir des théologies qu'on a appelées plus inclusivistes, où on va dire que toutes les expressions religieuses de l'humanité sont incluses, d'une façon ou d'une autre, dans le plan de Dieu, mais ça reste le Christ qui est le centre. Alors, avec le tournant de Vatican II, je vous ai mis deux textes que je ne vais pas lire maintenant sur la feuille, qui sont le texte sur les religions, le début de la déclaration sur les religions, sur la liberté religieuse, et le début de la déclaration sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes. Je vous rappelle que tous ces textes sont accessibles sur Internet, très bon marché, etc. L'Église change, entre guillemets, sa doctrine. Si elle revendique pour elle-même, en ces temps où un certain nombre de chrétiens sont sous le joug du marxisme, la liberté religieuse, elle ne peut pas la revendiquer, elle la revendique pour elle-même, elle la revendique pour tous. Donc, elle reconnaît que les religions non chrétiennes ont le droit à l'existence et que les hommes ne peuvent adhérer au christianisme que sans contrainte et librement, et par la vraie rencontre de Jésus-Christ. Et donc, décret sur la les religions non chrétiennes et décret sur la liberté religieuse, on change vraiment le logiciel de l'Église. Et là, on va mettre en place des théologies qu'on appelle plutôt inclusivistes, dont la plus connue, que vous voyez au dos de la page dans Lumen Gentium 16, Lumen Gentium, c'est la constitution dogmatique sur l'Église. Et au numéro 16, on parle des non-chrétiens. Enfin, pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'Évangile, sous des formes diverses, eux aussi sont ordonnés au peuple de Dieu. En effet, ceux qui, sans qu'il y ait de leur faute, ignorent l'Évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent sous l'influence de sa grâce d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, eux aussi peuvent arriver au salut éternel. À ceux-là même qui, sans faute de leur part, ne sont pas encore parvenus à une connaissance expresse de Dieu, mais travaillent, non sans la grâce divine, à avoir une vie droite, la divine providence ne refuse pas les secours nécessaires à leur salut. En effet, tout ce qui chez eux peut se trouver de bon et de vrai, l'Église le considère comme une préparation évangélique et comme un don de celui qui illumine tout homme pour que finalement il ait la vie. Donc vous verrez un peu la suite du texte, éventuellement vous allez chercher l'ensemble. Mais cette idée que les différentes religions sont des semences de verbes, semina verbi, dit le texte en latin, c'est-à-dire comme une espèce de préparation à l'accueil de l'Évangile. Alors, je ne sais pas d'où vient cela. C'est vrai que dans beaucoup de civilisations animistes, les missionnaires qui sont arrivés sur le terrain ont pu s'appuyer sur des religions traditionnelles qui ont permis, entre guillemets, qui ont aidé à l'implantation du christianisme. Une autre forme de cet inclusivisme dont on a parlé, c'est celle qu'on a appelée la théologie, entre guillemets, des chrétiens anonymes. Vous avez un extrait d'un texte de 1991 qui en parle. C'est une théologie qui a été développée en particulier par le grand théologien Karl Rahner, qui avait tendance à dire « les hommes droits ignorent Jésus-Christ parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus-Christ ». Même si on leur en a parlé, ça ne veut pas dire que la rencontre s'est faite. Mais quelque part, ce sont des chrétiens qui s'ignorent. Et donc, ils sont ordonnés au royaume de Dieu, ils seront sauvés. C'est un occidental, c'est des occidentaux qui parlent comme ça. Je peux vous dire que cette théologie qui a été très très bien reçue dans l'Église a été très très mal reçue par les personnes concernées, qui avaient l'impression que l'Église faisait de la récupération. Et donc on a mis un peu une pédale douce, parce que prétendre s'intéresser aux autres en allant contre leur volonté propre, il y avait quelque chose d'un petit peu bancal. Je vous laisse lire le petit texte de Dialogue Agnon. Bon, enfin, je vais vous parler du pluralisme. Alors, c'est des théologiens qui essaient de réfléchir au pluralisme religieux et qui disent finalement que les différentes religions sont autant de chemins vers Dieu, y compris la religion chrétienne, que chacune possède en elle-même une vérité à la fois réelle et relative. Et donc, ces théologies cherchent à mettre l'accent sur le caractère inaccessible du Dieu tout autre. Quelque part, il y a une forme de piété, mais finalement, se pose la question de la spécificité du christianisme. Alors, là-dedans, il y a des théologiens qui ont surtout parlé, et des praticiens, des pasteurs de la théologie des religions qui ont surtout pensé juxtaposition, c'est-à-dire peu importe à Dieu la religion à laquelle on se rattache, l'important c'est d'être pieux et sincère. Et puis, il y en a d'autres qui vivaient plutôt dans une idée qu'on pouvait faire une sorte de fusion, d'alliance, de tradition spirituelle, religieuse, et qu'on avance avec toutes les traditions vers un système unique et simplifié. Ces théologies pluralistes qui posent un problème majeur de compréhension de la spécificité de l'unicité du salut en Jésus-Christ. Elles n'ont pas été très très bien vécues au niveau de Rome et de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Est-ce que vous savez, la Congrégation pour la doctrine de la foi, c'est l'organisme romain de régulation de la théologie de la doctrine. Et vous savez, ou vous ne savez pas, que pratiquement presque tout le pontificat de Jean-Paul II, c'était le cardinal Ratzinger qui était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Cardinal de Ratzinger est un homme d'une très 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 grande intégrité morale, intellectuelle et spirituelle. Peut-être pas totalement armé pour comprendre le monde contemporain, mais c'est vraiment un homme intègre et profondément religieux, et qui avait dit avait vraiment le souci de la fidélité au message de Jésus-Christ, qui a toujours eu ce souci, très fortement. Et vous avez sur la feuille un petit texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui s'appelle Dominus Jesus, le Seigneur Jésus, qui pose la question de l'unicité et de l'universalité salvifique de Jésus-Christ et de l'Église. Donc c'est un texte un peu compliqué. Les textes de la Congrégation pour la doctrine de la foi sont toujours complexes. C'est de la théologie très universitaire. Mais simplement, je vous lis le premier paragraphe. La pérennité de l'annonce missionnaire de l'Église est aujourd'hui mise en péril par des théories relativistes qui entendent justifier le pluralisme religieux, non pas de facto, mais aussi de jure ou en tant que principe. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Le pluralisme religieux, il est de facto. De facto, ça veut dire, on voit bien qu'il est là. Mais les théologies qu'il appelle relativistes, il n'est pas dans la condamnation, il est dans le « attention, il y a péril ». Vous entendez un peu la subtilité, hein ? Elles sont mises en danger par le fait que des théologiens cherchent à les justifier dans le dessein de Dieu. Ça n'est pas une interdiction de travailler sur ces questions du pluralisme et des théologies pluralistes. C'est plus des panneaux de signalisation en disant « attention, passez la seconde, regardez bien dans le virage, faites attention, il faut absolument dans notre pensée théologique se rappeler que le cœur de notre foi, c'est Jésus-Christ nous sauve, Jésus-Christ est le salut. » Donc, voir ce texte, je vous en ai mis un petit peu plus long. Bien sûr, une fois de plus, si vous voulez avoir toute la déclaration, vous allez la chercher sur Internet. C'est quand même compliqué comme langue. Allez. Donc, ce que je vois là, quand je parle de ces théologies des religions, c'est que cette réflexion théologique, elle est extrêmement intéressante. Le fait de réfléchir théologiquement, ça donne à l'ensemble des chrétiens, et pas seulement pour les théologiens qui font ça à l'université, dans une bibliothèque, un petit peu des ressources pour avancer, pour comprendre, mais ça ne va pas suffire. Alors, quelques limites à ces théologies. D'une part, beaucoup de ces théologies des religions, à part celles qui n'abordent que très mal la question de l'indifférence religieuse, un petit peu la question de l'athéisme, et encore, alors l'indifférence religieuse totale, la théologie des religions, elle ne sait pas ce que c'est. Et ne pas l'aborder, c'est quand même... oublier un pan très grand du paysage religieux contemporain. Deuxième chose, sur le plan plus spirituel et théologique, sonder les desseins de Dieu, c'est toujours un chemin difficile et dangereux. Mais saint Thomas l'a fait, et c'est pas parce qu'un chemin est difficile et dangereux qu'il ne faut pas le parcourir. Mais il faut quand même se méfier.
Il faut apprendre à conduire.
Il faut apprendre à conduire, c'est ça. Il faut apprendre à conduire sur la neige, c'est pas pour ça qu'on ne passe pas sur la neige. Voilà. Quand il faut. Mais les grosses questions, c'est finalement nos urgences. L'urgence. Quelle est la singularité chrétienne? Quelle est notre mission? Comment doit-on vivre dans la complexité du monde? Et comment on va relever les défis contemporains, comment on va vivre et témoigner de Jésus-Christ, et comment on va le faire individuellement, comment on va le faire en Église. Et c'est là qu'on va se poser la question qui est le chemin sur lequel notre cours d'aujourd'hui porte, c'est comment vivre en chrétien et en Église. Alors, en Église, je mets ces deux termes. D'une part, sur le plan interne, entre guillemets, comment on va être en chrétien et être unis, ce qui ne veut pas dire avoir une seule tête et ne pas avoir de diversité. Et si je reprends les catégories qu'on a vues tout à l'heure de Weber et Trunch, comment on ne va pas s'isoler dans nos bulles sectaires ou de petites communions, de communions chaudes, et se faire plaisir dans notre petite communauté, mais comment on va vivre ainsi. Alors, nos difficultés. On n'arrive pas à parler de Dieu parce que finalement, quand on parle de Dieu, on oublie que souvent Jésus-Christ. Et finalement, on est enfermé dans ce que le Père Moine appelle un bien connu de Dieu, une image de Dieu construite par un théisme pendant tout la deuxième moitié du XXe siècle. Et on est dans du théisme et on s'imagine que le Dieu des musulmans, le Dieu de Jésus-Christ, tout ça, c'est Dieu. Et on ne parle pas du Dieu Trinité. Donc, c'est une difficulté. A-t-on les ressources pour parler du Dieu Trinité? Autre chose, on est piégé dans la... C'est particulièrement vrai en France, dans les valeurs, la terminologie des valeurs. Vous avez, si vous faites un peu de pastoral, vous avez un nombre énorme de gens qui viennent demander le baptême pour leurs enfants. Avec moi, je n'ai pas la foi, mais je voudrais lui transmettre les valeurs chrétiennes. Est-ce que Jésus-Christ, ce sont des valeurs? Ou est-ce que c'est notre cheminement avec Jésus-Christ qui nous entraîne à avoir une attitude éthique? On n'est pas du tout dans le même registre. Donc, on est un peu piégé. Bon, alors justement, finalement, comment se situer devant les questions éthiques essentielles? Que ce soit le transhumanisme, la GPA, le mariage pour tous, l'avortement dans les années 75, il est extrêmement difficile d'avoir un langage pertinent pour le monde contemporain si on se laisse enfermer dans les formulations des questions éthiques de nos contemporains. Par ailleurs, il nous faut affronter le pluralisme au sein même des églises et de notre église catholique romaine, parce que on n'a pas tous la même façon de vivre. Certains lisent témoignages chrétiens et d'autres lisent famille chrétienne, et tous nous avons à vivre divers dans l'unité. Donc, nous avons à trouver une façon de vivre en Église dans cette diversité. Tout ça, c'est quand même compliqué.
Là, on n'est pas toujours très témoin.
On fait ce qu'on peut, hein, mais on cherche. Alors, c'est là que, à la fois la théologie, à la fois le magistère, à la fois la hiérarchie vont avoir insisté sur ce qu'est le dialogue, ce qui n'est pas pareil que les questions qu'on s'est posées tout à l'heure. Le dialogue, c'est à la fois une théologie, C'est une pastorale, c'est-à-dire une façon d'être en Église. C'est une spiritualité, c'est une pratique individuelle et d'Église.
Est-ce que vous placez l'interreligieux dedans ?
Dans le dialogue ? Absolument. Le dialogue, c'est quelque chose de très large. Il y a le dialogue interreligieux dans ce dialogue. Hein ? Et voilà.
Les journées n'ont que 24 heures.
Oui.
Et si on doit justement s'intéresser à l'interreligieux et en même temps creuser dans la direction de la personne du Christ, comment fait-on pour tricoter dans...
De toute façon, comment fait-on pour tricoter une vie chrétienne complète, parfaite? Voilà, on est... C'est compliqué là, hein. Moi ce que je fais, c'est que je vous donne un petit peu les enjeux, les ressources qu'on peut convoquer, et puis je crois que l'Église sera un bon témoin si la diversité des chrétiens permet que soit un peu tricotée la diversité des urgences. Est-ce que... Mais après, moi aussi, je fais ce que je peux. Et pendant que je prépare un cours, je fais pas autre chose. Mais simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que ça, ce dialogue est prôné à tous les niveaux de l'Église, comme une approche beaucoup plus modeste du pluralisme religieux, du dialogue qui peut être interreligieux. Alors, finalement, on ne cherche pas la place des différentes religions ou de l'absence de religion dans le dessein de Dieu, ni leur rôle dans le salut, mais on revient au cœur de la foi, c'est-à-dire rendre témoignage à l'inouï de Jésus-Christ, de Dieu de Jésus-Christ, et dans une approche polyphonique, c'est-à-dire chacun a son endroit, finalement.
Oui, son charisme.
Ah ben oui, c'est ça, c'est pour ça que j'ai dit son endroit, son charisme, son lieu, l'endroit où il a été posé, etc.
En même temps, tout ça, évidemment, mais là, je vois plusieurs fois, mais, oui, mais ça, c'est ce que toi, tu crois.
Voilà. Et voilà.
Ça, c'est... Mais accepte que d'autres croient autre chose.
Eh bien, c'est évident. C'est ça, le dialogue.
Oui. Non, mais bien sûr qu'on l'accepte. Mmh. Mais du coup, une fois qu'on a dit ça, elle est où la jonction ? Parce que si alors, chacun croit quelque chose...
On y va. On va d'abord faire un tout petit peu de... Revenir à la... À, donc là, c'est un extrait d'Ecclésiam Suam. Ecclésiam Suam, Paul VI, qui vient d'être élu pape. On se pose la question, il y a eu la première session du Concile, on a voté que la Constitution sur la liturgie, il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas de cette réflexion sur l'Église, sur l'ouverture au monde, etc., et qui se disent « Ouh, le pape Jean XXIII est mort, le suivant n'est pas obligé de continuer le Concile, est-ce que Paul VI va le continuer ?» Et on réfléchit, il réfléchit et il pond cette encyclique Ecclesiam Suam, c'est-à-dire son Église, l'Église de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il dit ? Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Voici, vénérable frère, l'origine transcendante du dialogue. Elle se trouve dans l'intention même de Dieu. Et un peu plus bas, le dialogue du salut fut inauguré spontanément par l'initiative divine. C'est lui qui nous a aimés le premier, dans la première lettre de Jean. Il nous appartiendra de prendre à notre tour l'initiative pour étendre aux hommes ce dialogue sans attendre d'y être appelés. Donc, finalement, avant tout dialogue, nous nous replongeons dans Jésus-Christ. Nous ne pouvons vivre, aimer, dialoguer, agir que si nous sommes dans l'intimité de Jésus-Christ. Et ça, on y reviendra toujours. Et l'intimité de Jésus-Christ, ben, c'est les Écritures pour tout un chacun. Et on peut le faire seul, en petit groupe, en permanence. Après ça, le dialogue. Alors, je reviens au document dialogue et annonce. J'ai, tout à l'heure, je vous ai donné où il y avait quelque chose sur la théologie des chrétiens anonymes. Et là, ce texte-là, c'est d'après dialogue et annonce, c'est extrait de ce petit livre de Geneviève Comeau qui s'appelle « Grâce à l'autre ». Qui est, alors, Geneviève Comeau, essentielle dans la question du dialogue interreligieux, du vivre ensemble, « Grâce à l'autre » et un plus récent qui s'appelle « Vivre sa foi dans une société sécularisée ». Ce document, donc, Dialogue et Annonce, qui est à la fois de la Commission pontificale missionnaire pour l'évangélisation et celle pour le dialogue avec les religions, vous parle de quatre formes de dialogue. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper sur les quatre formes de dialogue. Toutes ne sont pas à notre portée. Alors, je commence par la troisième, le dialogue des échanges théologiques. La théologie, c'est quelque chose de compliqué. En général, ce sont des spécialistes qui vont travailler ensemble pour approfondir leur vie, leur compréhension de leurs héritages religieux respectifs, apprécier les valeurs spirituelles des uns et des autres. Geneviève Comeau, dont je vous parle, est une spécialiste du dialogue interreligieux. Elle a commencé par le judaïsme, mais elle est allée beaucoup plus loin. C'est pour ça qu'elle a pas mal écrit sur le sujet. Et elle, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu élitiste, mais il faut un petit peu, pour se lancer dans ce dialogue, entre guillemets, savoir où on habite, avoir des ressources pour répondre à l'autre, pour ne pas se laisser embarquer dans des discours difficiles. Vous avez un deuxième type de dialogue qui est autre chose. C'est le dialogue de l'expérience religieuse. Vous avez des personnes qui sont enracinées dans leur propre tradition et qui partagent leur richesse. Pendant très longtemps, on a pensé que c'était quelque chose d'assez élitiste, entre guillemets, comme le dialogue théologique. En fait, on s'aperçoit que l'important pour que ce dialogue existe, c'est que il faut que chacun soit enraciné dans sa propre tradition. Et il faut qu'il y ait volonté de dialogue de la part de tout le monde. Ce n'est pas forcément le cas des gens qu'on rencontre au quotidien et qui vont nous dire « ça, c'est ce que tu crois, mais moi, ça ne m'intéresse pas ». Mais je crois que les jeunes du mouvement Coexister nous montrent que ce n'est pas réservé à une élite. Ils ont 20 ans et ils ont su le faire tout seuls comme des grands. Donc, on s'aperçoit que l'important, c'est la volonté de dialogue et l'enracinement. Et c'est un dialogue qui transforme profondément la société. Après, je vais revenir au premier des dialogues. Alors, celui de la vie, ben, c'est vivre en bon camarade, en bon voisinage, les uns avec les autres. C'est partager les joies et les peines, les problèmes et les préoccupations. Je pense que vous avez, la plupart d'entre vous, vu le film Des hommes et des dieux. Quand on voit ces moines de Tibérine vivre au quotidien avec les villageois, ils ne sont pas en train de prêcher Jésus-Christ. Et quand ils fêtent avec les villageois des fêtes qui sont des fêtes musulmanes, ben ils mangent, ils boivent, ils participent, ils vivent en bon voisinage. Le frère Luc, soigne les malades. Et finalement, les musulmans voisins arrivent les matins de Ramadan avec les gâteaux de la veille. J'ai une sœur qui est médecin, elle est remplie de gâteaux, de choses comme ça, qui sont faites dans ces occasions. C'est le dialogue de la vie, vivre en bonne entente le mieux possible. Là, on a une responsabilité d'être à la fois discret, mais je vais revenir après plus sur l'accueillement, et accueillant. Si on a reçu des gâteaux pour le Ramadan, on peut également donner quelque chose pour Noël. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle le dialogue des œuvres. Ce dialogue des œuvres, c'est souvent dans l'associatif, mais ce n'est pas seulement dans l'associatif. Quand on va être des enseignants dans l'école publique, vont être capables de collaborer entre enseignants chrétiens et non-chrétiens, non-chrétiens, athées, indifférents et croyants d'autres religions, pour le bien de leurs élèves, de se mettre autour d'une table et de se dire, ben voilà, quel est mon projet pour que nos élèves grandissent en sagesse autant qu'en taille. Et il y a des tas d'établissements scolaires où ça se passe bien. Et où il y a ce qu'on appelle un dialogue des œuvres, où on est capable de collaborer en vue du développement de l'homme. Après, vous allez avoir des œuvres plus spécifiquement caritatives, vous allez avoir des œuvres, mais vous allez avoir toute une cohabitation, tout un dialogue où on va mettre en place une vie commune, où on va s'interroger sur ce qui fait la cohérence et le projet de vie qu'on a. Typiquement, des enseignants qui travaillent pour le bien des élèves, ils se posent des questions sur des bouts de projet de vie et ils travaillent ensemble, ils sont dans le dialogue. C'est là que j'arrive à, dans ces dialogues-là, ces deux dialogues, finalement, ils sont à la portée de tous et ils ne nécessitent pas d'avoir en face de nous quelqu'un qui a envie de dialoguer. En revanche, ils nécessitent que nous soyons capables d'accueillir les gâteaux de la voisine et de les trouver bons. Voilà. Et le jour où on lui donne un plat, on évite que ce soit un morceau de saucisson. Voilà. Oui, mais ça fait partie des gourmandises qu'on s'offre, nous, hein, de la charcuterie fine. Donc, voilà. Alors, je voudrais venir maintenant à une pensée qui a été développée par le théologien du centre Sèvres qui s'appelle Christophe Théobald, qui est une pensée très féconde. Après, je ne vais peut-être pas forcément vous dire de lire Christophe Théobald parce qu'il reste même installé en France, écrivant en français, un théologien allemand, et que il a une langue un peu difficile. Il a développé toute une idée que le christianisme, c'était un style. Un style, c'est-à-dire une façon de vivre, d'aimer, de se comporter, pour lequel on a un seul modèle, qui s'appelle Jésus. Alors tout d'abord, se rappeler que nous sommes minoritaires. Et c'est pas la peine de lutter contre la sécularisation de manière frontale, c'est pas la peine de rêver à une chrétienté disparue que nous allons refaire avec nos forces. Nous ne savons pas où nous mène l'esprit, mais on ne peut pas vivre avec la nostalgie d'un autre monde, d'un monde perdu, nous avons à vivre dans celui qui nous est donné. Et ce n'est pas la peine de taper de front dans le donné. Se rappeler que être chrétien, c'est une expérience de rencontre. C'est une rencontre personnelle de Dieu en Jésus-Christ. On ne peut pas vivre en chrétien uniquement de valeurs, de principes. Il faut nous dire en permanence qui est Jésus-Christ pour moi. Il faut que chacun d'entre nous, nous nous posions en permanence la question que Jésus pose à Pierre dans le premier texte que je vous ai fait lire, « Et pour vous, qui suis-je ?» Ça, c'est ce qui va créer la cohérence de notre vie, l'épaisseur de notre existence, notre style de vie. C'est le fait de revenir en permanence à cette intimité avec Jésus-Christ. Et cette rencontre, c'est un projet, c'est un avenir, mais il ne faut pas oublier que la pleine révélation de Jésus-Christ, c'est la passion et la croix. Et que donc, cette pleine révélation, elle n'est pas très, très triomphante et pas très, très... On n'est pas dans les performances en bourse, là. Hein. On est plutôt dans la chute. Donc, se rappeler que ce style de vie, c'est la cohérence, c'est l'épaisseur de l'existence, c'est ça qui va faire notre vie chrétienne, individuellement, et en Église. Parce que en Église aussi, finalement, entre celui qui va avoir l'option famille chrétienne, celui qui va avoir l'option témoignage chrétien, qu'est-ce qui fait notre unité ? C'est Jésus-Christ. Et si nous reconnaissons à l'autre en permanence la valeur de son intimité avec Jésus-Christ, et à quoi nous le reconnaîtrons ? Au fait que quand il nous dira « Bonjour, ne t'inquiète pas, pas de soucis », on entendra Jésus-Christ vous parler. Et je vous assure que j'ai rencontré des gens à qui je téléphone en disant « Je suis coincé dans le métro, commence la réunion sans moi », et j'entends Jésus-Christ me dire « Sois en paix, ne t'inquiète pas. C'est ça qui va... ce qui fait que cette personne, en me disant simplement ça, me a ce contact, c'est sa propre intimité avec le Fils dans l'esprit. Et donc, c'est ça qu'il nous faut cultiver. Et nous le cultivions aussi en Église, qu'en permanence, en chrétien, extrêmement différent, nous cultivions ce lien avec Jésus-Christ. Et c'est ce lien qui va entraîner qu'on va être ouvert en relation avec les autres et finalement peut-être un peu préservé de ce cocon de secte, de ce cocon mystique dont je vous ai parlé. Alors, je vais finir avec le pape François, parce que c'est quelqu'un qui a très très bien senti le monde contemporain. Peut-être parce que c'est un urbain, peut-être parce qu'il a vécu des choses difficiles, c'est pas le premier, peut-être parce que c'est pas un théologien de profession, j'en sais rien, mais Evangelii Gaudium, c'est le premier texte du pape François. Alors je sais pas si vous vous rappelez les circonstances. C'est une année qui était l'année 2012, avait été proclamée par Benoît XVI, année de la nouvelle évangélisation, qui avait peut-être été comprise, parce que le langage est difficile à comprendre, comme une façon plutôt de se remettre, une refondation du christianisme, quelque chose où on était dans du re avec la nouvelle évangélisation. il y a eu le synode, parce que très fois que l'année est une année 2, il y a un synode, des évêques qui réfléchissent, et à l'issue du synode, les évêques réfléchissent, parlent, font plein de... ont consulté dans leur diocèse, etc. Le pape, on lui donne tout ça, et il écrit une exhortation post-synodale. Mais Benoît XVI s'étant retiré, c'est le pape François qui écrit l'exhortation post-synodale. Et cette exhortation post-synodale est son premier écrit de pape, très surprenant parce qu'à la fois il y a des passages dans une langue extrêmement familière et des passages dans une langue beaucoup plus théologique. Il y a des petits bouts, ça fait un peu copier-coller, etc. Mais où on voit toute cette profondeur et il va nous parler de l'Église et de son intimité avec Jésus. Donc, l'Église, elle vit dans l'intimité avec Jésus. Première chose. Mais c'est une intimité qu'il appelle itinérante, une intimité en chemin. Et il a cette forme, il a ce titre d'Église en sortie, qui sort d'elle-même. Alors, je reviens. L'intimité de l'Église avec Jésus est une intimité itinérante et la communion se présente essentiellement comme communion missionnaire. Fidèle au modèle du Maître, il est vital qu'aujourd'hui, l'Église sorte pour énoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de l'Évangile, c'est le titre de son texte, et pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu. L'Église en sortie est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, qui accompagnent, qui fructifient, qui portent du fruit plutôt, et qui fêtent. Il aime bien la fête, le pape François. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l'initiative, il l'a précédée dans l'amour, et en raison de cela, elle sait aller de l'avant, elle sait prendre l'initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin, et arriver au croisé des chemins pour inviter les exclus. Je me suis arrêtée là parce que je ne vais pas vous mettre des pages et des pages de François. Mais il poursuit en disant « Vous inquiétez pas, on est incapable, on ne sait pas faire, on n'y arrivera pas, on n'a pas les moyens, mais il faut le faire quand même. » Voilà. Donc j'espère que ça donne un peu des ressources sur le... pour aller plus loin. Donc je vous ai dit qu'il y avait les deux livres de Geneviève Comeau là-dessus. Il s'appelle « Vivre sa foi dans une société sécularisée ». Il date de l'année dernière, on ne l'a pas encore reçu.
Comment ça s'écrit ?
C-O-M-E-A-U. Alexavière. Absolument. Vous avez, alors, c'est pas celui-là, mais c'est dans cette collection-là, ça vaut 8 euros, celui du CIF s'est envolé, un livre d'Adrien Candiard, qui est remarquable sur l'islam ou pourquoi on n'y comprend rien. Remarquable. Là, qu'est-ce que j'ai mis ? Alors là, j'ai le que sais-je sur l'islam. L'islam en 50 mots-clés. Un livre sur Christian de Chergé. Donc, tout à l'heure, je vous ai cité Pierre Clavry, mais un autre grand du dialogue avec l'islam et du dialogue de la vie. Hein? Voilà. Bon, puis là, il y a quelques autres livres. Je vais les laisser là. Vous pouvez venir les voir. Alors, un livre assez ancien de Jean-Marie Ploux qui est sur le dialogue change-t-il la foi, mais qui prend en main la question de l'indifférence et qui date plutôt des années 80. Et c'est extrêmement nouveau. Je sens frémir ça depuis seulement. Depuis moins d'un an, parce que je ne l'ai pas mis l'année dernière dans mon cours, que la question de l'indifférence redevient une question posée à l'Église. Jean-Marie Ploux.
Pas qu'à l'Église catholique.
Ah non, pas qu'à l'Église catholique.
Même les musulmans du Sud-Est faire aussi.
Comment vous appelez le nom de famille?
De Ploux, Ploux.
Ça peut être une femme de foi qui fait que les personnes se réfugient.
Alors, je ne sais pas si c'est une question de peur, si c'est une question d'éthos, c'est-à-dire d'ambiance globale, qui fait que les questions ultimes, là, quand on disait que le Concile dit les grandes questions, les énigmes cachées, ne sont plus des énigmes pour des gens dont la vie quotidienne est suffisamment lourde à porter, même si le lourd à porter, c'est de savoir comment je vais m'organiser pour mon week-end de planche à voile, hein, mais pour lesquels la vie quotidienne est tellement pleine qu'il n'y a plus de place pour les grandes questions. Vous voyez ? Et je ne sais pas si c'est la peur des grandes questions, mais je pense que là, c'est plus de l'agnosticisme. Je ne vais pas y répondre. Alors que l'indifférence, c'est « j'ai pas de place dans ma vie pour me poser ces questions. Excusez-moi, j'ai poney, quoi. » Bon, voilà. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors, la semaine prochaine, on va se poser la question des missions d'église. Finalement. Mais on verra un peu si on fait un lien ou pas.
Merci beaucoup.
De rien. Merci.